Et bonjour, c'est Félix,
Adrien
et Bérald de Bébé Brune.
Et vous écoutez Pop Pop Pop.
Vas-y, 3, 4,
Pop Pop Pop, c'est parti. Pop popien, pop popien et tous les autres aussi, bonjour. Alors que nous fourbissons nos armes en vue de la longue nuit qui nous attend jeudi. Oui, je précise pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'info que jeudi soir aura lieu la première nuit de la pop culture sur France Inter et que nous serons donc en direct de 21h à 5h du matin avec une pléiade d'invités de surprise et de bonne musique. Pendant que nous fourbissons nos armes, disais-je, activité qui consiste principalement à faire provision de sommeil et de café en prévision de ce long bivouac qui ne sera pas sans me rappeler ces folles nuits d'une époque plus noctambule de mon existence où je n'hésitais jamais à mettre le feu aux pistes de danse, à en faire passer de John Travolta pour un vieillard phtisique, s'échauffant un samedi soir à les pattes de Moisy Le Gland, à l'écoute d'un Franck Michael de derrière les fagots. Alors que, disais-je donc, la pression monte au fur et à mesure que l'échéance approche, il est conseillé de se changer les idées en imaginant ce que serait notre monde et par voie de conséquence notre bien-aimé pop culture si l'histoire, avec un grand H, comme dans HHHH, avait pris l'un des virages capricieux qu'elle s'amuse parfois à négocier sans prévenir. C'est exactement le postulat que Laurent Binet, l'auteur de HHHH, et oui, bien sûr, une fois de plus, je retombe sur mes pattes, nous invite à considérer avec son nouveau et passionnant roman Civilisation, avec un Z au milieu. Pourquoi un Z au milieu? Voilà une des questions que nous allons lui poser avec un S au milieu. Laurent Binet est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Paul.
Et à mes côtés, Charline Roux avec un U au milieu et la plus grande fan de Franck Michael au passage. Bonjour.
Le Charline. Chanteur de Wham?
Oui.
Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent.
Et bonjour, bonjour Laurent Binet. Bienvenue dans notre studio. Alors pourquoi un Z au milieu? Oui, je sais, on attaque très fort.
Le Z est une référence à un jeu vidéo qui s'appelle toujours Civilisation au singulier et auquel j'ai joué quand j'étais plus jeune. Et puisqu'il s'agissait de développer, puisqu'il y avait mon livre reposait sur un projet ludique, à savoir comment on fait quand on est 201K et qu'on a toute l'Europe à conquérir. J'ai pensé que c'était une référence qui était pertinente.
Et c'est la bonne réponse. Bravo Laurent, et l'émission continue. Alors, au menu également de Pop Pop Pop, on va parler de Zola avec un Z au début. Hein. On va parler même des Zola pour être plus précis, avec la BD d'Alice Chemama et Méliane Marcaggi qui s'intéresse au parcours de l'écrivain comme à sa vie politique, familiale, sociale et amoureuse. Mais avant ça, Laurent Binet, ici, il existe une question préliminaire, une question encore plus insoutenable que d'entendre du Franck Michael dans un EHPAD de Moisy Le Gland.
Toutes les femmes sont belles.
Et cette question, c'est... Laurent Binet, pour vous, c'est quoi la pop culture ?
La pop culture.
Ah, attendez, parce que pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses binétinantes, civilisationnelles et même chiteuses. Et parmi mes préférées, Laurent Binet, il y a celle du numéro 2 des Robinet Binet, alias Guillaume de Tonquédec.
Andy Warhol.
Vous
va ouais.
Oui.
Tous ces tableaux et toute cette époque-là où ils ont dû bien s'amuser et où en effet l'art se créait dans des arrière-cours ou dans la rue, etc. Où il n'y avait pas d'école, quoi. Ils ont fait ça, ils se sont amusés, et ça a donné ce mouvement qui est devenu complètement dingue.
Voilà pour Guillaume de Tonquédec. Et pour vous, Laurent Binet, c'est quoi cette pop culture?
Moi, je pense que c'est la pop culture, c'est la culture vivante que tous les réactionnaires détestent. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, Rabelais, c'était de la pop culture. Et aujourd'hui, ce sont les futurs classiques, c'est-à-dire Riyad Satouf, Johannes Farr, c'est de la pop culture, voué à devenir classique. Les grandes séries américaines sont de la pop culture. Springsteen,
Je faillote un peu.
Les Rolling Stones, etc., sont déjà des classiques en fait. Ce sont les futurs classiques détestés par Finkielkraut.
Très bien, une définition qui me convient. La pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après un morceau de Billie Eilish qui s'intitule All the Good Girls Go to Hell.
Standing there, killing time, can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California, my
I didn't want you. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
There's nothing left to say.
My God is gonna own me.
There's nothing left to say.
All the good girls go to hell, Billie Eilish. Cet extrait de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Vaste question.
Ça en fait des questions.
Vaste question. Mmh. Tellement de questions, si peu de réponses. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un invité dont la légende raconte qu'il a chanté dans un groupe qui était baptisé Stalingrad.
Si jamais un coin de rue nous force à nous rencontrer, quoi que l'on soit devenu.
Et là, il nous fait des grands signes. Non, 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 non. Alors, non, 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 je veux pas l'écouter, ou non, 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 c'est pas moi.
Non, c'est pas moi.
C'est, ah. C'est l'autre Stalingrad.
Bah, il semblerait. Yeah. Nous, on n'a pas laissé de traces ou on les a effacées.
Vous avez tout effacé plutôt. Ouais. Ah. Bon, c'était un groupe donc punk.
Bah, que je salue.
Stalingrad, qui était dans la droite lignée de Noir Désir.
Alors le mien, oui.
Le vôtre, hein.
Voilà. Oui. Le mien, c'était Noir Désir. J'étais chanteur, guitariste, compositeur. J'étais assez médiocre, mais mes musiciens étaient très bons.
Et ils s'appelaient comment?
Alexandre Choisla, le batteur s'appelait Benjamin, et le bassiste François. Et
non, mais je veux dire que le groupe s'appelait vraiment...
Pardon. Non, mais je leur fais un peu de pub, hein, si des producteurs sont intéressés. Non, le groupe s'appelait Stalingrad.
Bon. Ok, bien. Alors, on va passer à votre pop portrait. Alors, évidemment, votre pop portrait, Laurent, c'est votre portrait, mais... Et il est saigné.
Ah, il est saigné aujourd'hui, oui, tout à fait.
Aussi. Charline Rurururur.
Aujourd'hui, un invité à homonyme trompeur, tant l'univers des dix binets se situe à des années-lumière. Hein. Notre invité n'est pas celui des deux qui raconte les vicissitudes d'une vie de couple médiocre avec option pleutrerie et vanité. Non, les protagonistes de notre invité ne se nomment pas RR comme Robert ou Raymond, mais Reinhardt ou Roland. C'est-à-dire, plutôt que de l'histoire petit bras et petit pied, c'est celle avec un grand H, voire plusieurs, qu'il prend plaisir à raconter et malmener dans HHHH ou Himmler's Ian Heist Heydrich, ou la septième, ouais, j'ai fait allemand première langue, ou la septième fonction du langage. Et cette question, qui a tué Roland Barthes? Alors il en pose une autre aujourd'hui dans Civilisation. À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être? Question à laquelle les Bidochons auraient bien sûr répondu par un précis et concis. Hein? Oui, parce que refaire le XVIe siècle n'est pas à la portée de tous, le refaire avec esprit encore moins. Donc je maintiens, aujourd'hui nous recevons Laurent Binet, aucun rapport.
Vous savez que vous avez un homonyme.
Oui, Christian, okay. Christian Binet, l'auteur des Bidochons. Oui.
Bien, d'accord. Juste le nom en commun, c'est tout.
Oui, pas lien de parenté.
Il n'a pas joué dans Stalingrad.
Et si.
Alors, Laurent, en attendant d'écouter éventuellement votre organe, un de ces jours, intéressons-nous au choix de votre pop-list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, Laurent Binet, vous avez fait un choix flaubertien avec Salammbô. Livre paru en 1862, il y est question de violence, il y est question d'histoire avec un grand H et bien sûr cette sublime
Phrase d'ouverture, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Franchement, Charline, ça envoie du bois, non, comme on dit.
Ah oui, ça dynamite, ça disperse, ça ventile même. Il n'y a que le même qui est de moi dans cette phrase. Salambo est la fille d'Amilcar et servante de la déesse Tanit, et elle est amoureuse de Mato, le chef des mercenaires employé par Carthage dans sa guerre contre les Romains.
Bien. Laurent, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Des figuiers entouraient les cuisines. Un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers. Des vignes, chargées de grappes, montaient dans le branchage des pins. Un champ de roses s'épanouissait sous des platanes. De place en place, sur des gazons se balançaient des lys, un sable noir mêlé à de la poudre de corail, parsemait les sentiers et, au milieu, l'avenue des cyprès faisait d'un bout à l'autre comme une double colonnade d'obélisques verts.
Salambo, extrait de Salambo, lu par Laurent Binet. Gustave Flaubert, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans tellement ?
Alors, j'ai choisi Salambo parce que c'est un roman souvent négligé dont on ne connaît en général que la première phrase
sublime.
Sublime, certes, mais et qu'on imagine fait donc de ce type de description, certes magnifique, mais un petit peu long et ennuyeux, alors que Salambo, en fait, c'est Game of Thrones. C'est une épopée absolument fabuleuse, faite de c'est un roman d'aventure extraordinaire et donc qui parle moi à ma fibre épique. Et
car vous avez une fibre épique.
J'ai un goût prononcé pour l'épopée. Enfin, disons à chaque livre, je dois le constater, et je peux même vous confesser que l'une des motivations de mon livre, je crois, a été de faire mon Salambo. Et d'ailleurs, il y a quelques ici ou là, j'ai caché quelques phrases tirées de piquées à Flaubert dans le livre.
Et ça, c'est moche. Donc le Salambo, vous préférez le livre au dessert, on est d'accord.
Oui,
évidemment. Un gâteau à la crème.
Laurent Binet, pour le film, vous avez choisi Il était une fois la révolution. C'est un film réalisé par Sergio Leone en 71. Charline, je me suis toujours demandé pourquoi Sergio Leone avait intitulé trois de ses films Il était une fois. Dans l'Ouest, la révolution et en Amérique. Allez-vous enfin aujourd'hui nous expliquer pourquoi ? Les Français veulent savoir.
Non, parce qu'en fait, en réalité, Il était une fois la révolution est le seul en VO à ne pas s'appeler Il était une fois. Le titre italien est Giù la testa. J'ai pas fait italien, elle vient. Soit Baisse la tête. Baisse la tête se déroule au Mexique et ses deux personnages, Juan Miranda, Rod Steiger, un pilleur de diligence, et John Mallory, James Coburn, un Irlandais membre de l'IRA en fuite, spécialiste des explosifs, se retrouvent en pleine tourmente révolutionnaire.
Rod Steiger as Juan, a mean, filthy, greedy, rotten, bloodthirsty bandit. When his finger gets itchy, someone gets scratched. James Coburn as John, the exploding Irishman, a walking stick of dynamite.
You come here to join the revolution.
Oh, one was enough for me.
Donc, Laurent Binet, dans l'œuvre du génial Sergio Leone, votre choix se porte sur Il était une fois, trois petits points, la révolution. Pourquoi celui-ci ?
Oui, en fait, j'aurais pu choisir n'importe quel Sergio Leone. Bon, c'est vrai que le premier film que j'ai vu au cinéma, où m'avait emmené mon père, c'était Il était une fois dans l'Ouest. La première fois que j'ai vu Le Bon, la Brute et le Truand, c'était extraordinaire. J'ai choisi Il était une fois la Révolution pour faire une unité thématique avec avec Salambo, qui est une histoire de révolte d'esclaves, et puis mes deux autres choix. Je l'ai aussi choisi pour la scène d'ouverture. Je savais pas moi que le titre original c'était Baisse la tête, mais c'est dans la scène d'ouverture. D'abord la première image, c'est quand même la silhouette d'un paysan mexicain en train d'uriner sur un rocher, et donc on voit sa silhouette qui se découpe et la silhouette de son pénis avec le bruit du jet d'urine. Et là tout de suite on se dit bon voilà, on a affaire à quelqu'un qui propose un maniérisme picaresque auquel j'ai tout de suite adhéré. Et la suite de la scène, elle est
Duck You Sucker.
C'est ça, non ?
Pardon ? C'est le Duck You Sucker qui, je crois, donne le titre en anglais.
Qui veut dire
peut-être ?
Baisse-toi imbécile.
Ah, merci.
Ah oui, baisse-toi imbécile, c'est ça. Mais en tout cas, donc dans la première scène, il baisse la tête puisque une diligence s'arrête, le prend en stop, et à l'intérieur de la diligence, il y a des gros bourgeois américains qui l'humilie, qui lui disent mets-toi dans un coin. Et alors lui, il est sale, il a pas de chaussures, il est tout déguenillé. Et les gros bourgeois américains sont en train de manger. Et donc Sergio Leone fait des gros plans de mastication sur leur bouche et ils tiennent des propos extrêmement insultants, méprisants sur le pauvre petit paysan mexicain et sur ses pères. Et puis la diligence s'arrête, elle a été bloquée par des enfants qui ont bloqué les des roues, qui attaque la diligence, et en fait on se rend compte que le pauvre petit paysan mexicain la relève la tête, s'empare d'une arme, arrête tous les bourgeois, les dévalise, les dépouille, les met tout nus et les jette sur la route, et en fait le pauvre petit paysan est le héros du film avec James Coburn, c'est Rod Steiger. Le film commence et d'emblée on s'inscrit dans un retournement qui est un effet, l'effet, le principe du retournement est quelque chose qui me plaît.
Alors, il était une fois la révolution de Sergio Leone, et j'informe le fan de Sergio Leone que vous êtes qu'il y a un documentaire belge qui va bientôt sortir qui s'appelle Il était Sergio Leone une fois. Ça arrive au mois de novembre, je crois. Laurent Binet, pour la série, vous avez choisi...
Moi, je vous écoute avec recueillement, puis je me dis, ah, une info, sympa.
Vous avez choisi The Americans, série créée par Joe Weisberg, diffusée entre 2013 et 2018, disponible sur Netflix en France. Charline, beaucoup de gens l'ignorent et nous allons profiter de l'occasion pour leur apprendre, mais les Américains de la série ne le sont pas vraiment. N'est-ce pas étonnant?
C'est parce qu'en fait, ce sont des citoyens, ce sont des officiers du KGB.
Ah, d'accord.
Oui, ils sont formés afin de vivre aux États-Unis comme des citoyens américains nés au Canada, puisque la série se déroule en pleine guerre froide. C'est pour ça que je ne le dis pas trop fort.
The greatest threat the United States now faces is the Soviet Union.
Hello?
The Americans have no intelligence.
Undercover agents hiding all over the U.S. No one has any idea who they are. Well, they look like us. They speak better English than we do.
Maybe there's another way.
I would lose everything before I would betray my country.
The Americans, le choix de série de Laurent Binet. Alors pourquoi choisir ces Américains qui ne sont pas vraiment Américains, Laurent ?
Alors, eh bien, là, c'était pour rendre justice un peu aux Américains, justement, dont on loue sans arrêt le savoir-faire, mais que nous, Français, on considère pas toujours comme très subtil. Or, cette série me rappelle, figurez-vous, les Perses d'Eschyle, qui est la plus ancienne tragédie grecque qui soit parvenue jusqu'à nous, et qui raconte l'histoire de Xerxès, le roi des Perses, apprenant la défaite de sa flotte à la bataille de Salamine. Et donc, la pièce raconte... C'est le messager qui vient rapporter à Xerxès la défaite. Et donc c'est le récit pathétique du messager et la déploration de Xerxès qui se lamente sur la perte de sa flotte. Et donc le point commun que j'y ai vu, c'est que donc Eschyle faisait pleurer les Grecs, susciter la crainte et la pitié sur leurs ennemis. Et là, les Américains font les auteurs de la série font trembler le public américain pour des agents russes. Et j'ajoute que The Americans, en fait, ne désigne pas par antiphrase les agents russes, mais le seul moment où les agents russes sont totalement fondus dans la société américaine, et le seul moment où on détecte qu'ils ne sont pas américains, c'est quand ils parlent justement de leurs supposés compatriotes, ils disent The Americans, et là, on se rappelle que non, eux, ce sont des Russes, et ce type de... Ce type de dispositif, c'est finalement celui de Montaigne, de Montesquieu, les lettres personnes, c'était pareil, et c'est aussi, il se trouve... le mien dans Civilisation, puisque on passe 300 pages à voir l'Europe à travers les yeux des Incas.
Charline, je vois que vous buvez les paroles littéralement de
Laurent. Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on n'a pas affaire à un homme qui a été professeur de littérature ?
Tout à fait.
Non ?
Je m'instruis. Non ? Ça s'entend.
Non ?
Oui.
Bah oui, non, on est très contents.
Oui.
Bah oui. Bon, on va terminer votre pop liste, Laurent Binet, avec une chanson culte. Votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci. You're the big cherry. When you can't really function, you're so full of fear. But I want to ask you all yourself in me. La reprise live de Working Class Hero par Noir Désir avec le saxophoniste hongrois Akos. C'est un choix pointu puisque vous auriez pu vous contenter de la magnifique version originale de Lennon. Et non, vous lui préférez la reprise de Noir Désir et en bonus avec un saxophoniste hongrois. Tout ça mérite une explication. Nous vous écoutons.
Mais je peux pas écouter cette chanson sans avoir des frissons et je trouve que, évidemment, l'original est formidable. Mais la voix de Kanta et le dialogue avec la voix déchirée de Kanta avec le saxo déchiré de Akos, je trouve que ça ajoute une plus-value qui rend le morceau absolument sublime, quoi.
Et j'imagine Working Class Hero, un morceau qui vous raconte beaucoup de choses.
Alors vous avez vu, là, il était une fois la révolution, Working Class Hero, les Spartacus, les esclaves. grave à Carthage. J'ai essayé de faire une unité thématique.
Alors, je résume. Salambo, pas le dessert, le roman. Il était une fois la révolution, The Americans, la reprise de Working Class Hero par Noir Désir. Je mets tout ça dans mon petit mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
The greatest threat the United States now faces is the Soviet Union.
When his finger gets itchy, someone gets scratched.
Hello?
The Americans have no intelligence.
Un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers.
I would lose everything before I would betray my country.
Voilà, c'est Laurent Binet, ça. Enfin, le remix, hein, je veux dire. Vous vous retrouvez là-dedans?
Ah bah c'est pas mal, oui, là c'est sûr, ça me parle.
Hein, ouais. Côté, la révolution est en marche hein, quand même.
Alors, Laurent Binet, ne bougez pas, on va parler de vous avec vous juste après un classique, c'est Johnny Nash, I Can See Clearly Now.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. Gonna be bright, sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be a bright, sunshiny day.
Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Et Charline Roux. Nous recevons aujourd'hui Laurent Binet pour parler de son nouveau roman Civilisation avec un Z. C'est aux éditions Grasset, un livre qui nous a emballé ici. Et on va commencer par dire les choses comme elles sont, Laurent. Le titre de votre roman Civilisation avec un Z dedans, donc, c'est, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, le nom d'un célèbre jeu vidéo, un jeu de stratégie. Ça veut dire que vous êtes joueur dans tous les sens du terme.
J'ai joué à ce jeu, j'ai joué à Assassin's Creed.
Non, mais je dis dans un sens très, très large.
Ben, je pense que,
il faut être joueur pour imaginer un livre comme ça, non?
Ben, je pense qu'il y a une dimension ludique. Enfin, je pense que l'art gagne à avoir une dimension ludique et peut-être spécialement le roman. Et je pense que c'est mieux quand on s'amuse, je pense. Ça, ce qui exclut pas une part de souffrance ou de d'angoisse par ailleurs, mais j'aime bien l'idée quand même que la vie est un jeu, l'art est un jeu, etc. Mais alors les jeux, enfin le principe du jeu, c'est que enfin les meilleurs jeux sont ceux qu'on prend au sérieux, sinon
bien
on s'amuse
sûr,
pas.
Voilà, donc, mais vous avez l'impression que parfois la littérature française est est prisonnière d'une forme d'esprit de sérieux.
Bon, alors je veux me réfugier derrière Kundera. C'est pas moi qui le dis, c'est Kundera. Il disait, bon, il trouvait qu'il y avait un petit esprit de sérieux dans le, enfin un esprit de sérieux préjudiciable à la littérature française contemporaine. Et c'est vrai que si on regarde chez les anglo-saxons, chez les latino-américains, chez les la littérature d'Europe de l'Est, il y a peut-être davantage de fantaisie, une fantaisie qui a existé dans la littérature française. Enfin, c'est Kundera encore lui dit que voilà, il y a eu le moment de Rabelais à Diderot. Il y avait c'était Diderot, c'était comme le c'était Laurent Stern, c'était une voilà, et c'est quand même c'est le courant alsacien qui a gagné. Avec ce qu'il a de tout à fait respectable et avec tous les chefs-d'œuvre qu'il a produits, mais il est peut-être devenu un peu trop hégémonique, quoi.
Et je vois Charline qui boit littéralement vos paroles.
Tout à fait. Et c'est pour me signifier que c'est à moi de. Oui, c'est faut y aller, d'accord. Oui. C'est un roman que vous avez conçu comme une uchronie ou comme une dystopie?
Non, une uchronie. Alors, Arnaud Vivian a dit non, il faut dire histoire contrefactuelle. Dans les deux cas, bon, moi je fais pas exactement la distinction.
Une histoire contrefactuelle. Une vision qui est plus pessimiste que l'autre.
Oui, non, mais dystopie, ouais. C'est-à-dire dystopie, c'est le contraire d'une.
C'est l'utopie qui vire mal.
D'une utopie, mais c'est plus. En général, on est plus dans l'anticipation ou dans le présent. Là, donc, le principe de l'uchronie, c'est qu'on refait l'histoire dans le passé. Donc, ça, c'est quand même. Donc, uchronie, ça me va. Histoire contrefactuelle, ça me va très bien aussi parce que dans les deux cas, c'est très parlant. Les anglo-saxons parlent d'histoire alternative, alternative story. Les trois me conviennent. Dystopie, non.
Fake news, quoi qu'il en soit.
Fake news, oui, si vous voulez.
Laurent Binet, avec Civilisation, vous jouez non seulement avec l'histoire, mais avec les genres littéraires. Vous passez du pastiche aux chroniques, en bifurquant par les correspondances, les journaux, les parodies, et pour finir par le conte. C'est à la fois une entreprise démesurée, mais qui, j'imagine, vous a beaucoup amusé à fabriquer.
Oui, c'est-à-dire, c'était comme je vous dis, j'ai pris ça très au sérieux et je voulais tout changer, mais que tout ait l'air vrai. Et en tout cas, donc j'ai comment dire, l'uchronie, l'intérêt de l'uchronie ne vaut que par l'écart qu'on perçoit vis-à-vis de l'histoire originelle. Et donc, ça nécessitait une très bonne connaissance de ce dont je parlais, c'est-à-dire donc l'introduction. Je m'étais plongé dans les sagas islandaises puisque je commence avec les Vikings. Ensuite, j'ai falsifié le journal de Christophe Colomb, mais je suis parti évidemment du véritable journal. Et d'ailleurs, les premières pages de mon chapitre sont un montage de citations. C'est le vrai Colomb qui parle. Et ensuite, toute la partie chronique s'inspirait des chroniques que les conquistadors eux-mêmes avaient rapportées.
Voilà, parce qu'il faut repasser par cette case-là. Vous êtes ce qu'on appelle un auteur d'imagination plus qu'un amateur de l'autofiction, si cher à Christine Angot. Il vous faut de l'histoire, des rebondissements, de l'imagination, de l'uchronie, tout ça vous va à merveille. Et après y avoir imaginé que la mort de Roland Barthes n'était pas si accidentelle que ça, vous passez à la vitesse supérieure avec ce livre. Non seulement Christophe Colomb ne découvre pas l'Amérique, mais en plus ce sont les Incas qui viennent façonner le monde occidental avant de se faire pilonner par les Mexicains. Alors le goût pour l'uchronie, c'est une manière de jouer avec une réalité contemporaine qui ne vous convient pas. Ou c'est tout à fait autre chose.
Tout à fait. C'est-à-dire, il y a une part de mélancolie et de nostalgie. La mélancolie, c'est une nostalgie qui n'a pas d'objet, en quelque sorte. Il y a une part de mélancolie pour quelque chose qui aurait pu exister et qui ne l'a pas été, vis-à-vis, en effet, d'un présent, je vous l'apprends pas, qui peut parfois être un peu déprimant. Et, à la fois, donc, c'est mélancolique et un petit peu pessimiste parce que, je peux refaire l'histoire autant que je veux. Les morts sont morts et l'histoire, on la refera pas. Mais en même temps, l'idée que l'histoire aurait pu bifurquer avec deux ou trois petits changements nous laisse l'espoir que là on n'est peut-être pas complètement foutu aujourd'hui, quoi.
Les uchronies s'intéressent souvent à une autre partie de l'histoire plus récente, comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé au XVIe siècle?
Parce que déjà et si Hitler avait gagné la guerre, ça a été beaucoup fait, et d'ailleurs très bien fait par le maître du haut château, etc., le complot contre l'Amérique de Philip Ross. Et par ailleurs, je me suis dit, c'est-à-dire, il me semble que quitte à refaire l'histoire, autant la refaire complètement. C'est-à-dire, autant faire vraiment du 180 degrés. Et en fait, quand même, si on réfléchit bien, Christophe Colomb, 1492, des virages à 100, des moments charnières dans l'histoire, des bouleversements, un événement qui entraîne autant de bouleversements dans le monde entier, il n'y en a pas tant que ça.
Ils refont l'histoire, mais on retombe quand même sur ses pattes, parce que vos Incas peuvent imaginer conquérir le monde grâce aux legs des Vikings venus 500 ans plus tôt avec du fer, des chevaux, l'immunité
et
bactérienne,
les anticorps.
Et en fait, donc, sans l'Europe, pas de conquête Inca.
Oui, enfin, sans l'Europe, ensuite, l'Europe, vous voyez, enfin, disons, les Vikings, je sais pas si les Vikings avaient grand chose à voir avec les,
alors,
les
idées européennes. Sont...
Ouais. Voilà, exactement. Donc, oui, il se trouve que moi, j'ai choisi les Vikings parce que l'histoire réelle atteste bien que des Vikings sont allés ont découvert l'Amérique en fait 500 ans avant Christophe Colomb et puis bon sont repartis et donc cette découverte a été oubliée donc oui c'est, si vous voulez y a, j'aime bien l'idée que l'histoire retombe sur ses pattes ça c'était quelque chose qui m'intéressait où finalement on s'éloigne de, mais en fait on se recroise de temps en temps c'est-à-dire dans mon livre certains épisodes certains personnages voilà c'est, finalement retrouvent la place qu'ils ont eue dans la véritable histoire et par exemple Lorenzo Accio fait une apparition dans mon livre et simplement donc il a toujours sa fonction de régicide mais c'est plus la même personne qui tue donc j'aime bien cette idée là ensuite moi la vérité c'est que je crois pas tellement à l'essence des peuples que ce soit les Vikings ou d'autres qui est c'est moi je voulais un truc qui puisse être cohérent et les Vikings il me semblait que c'était le point où il suffisait de modifier un tout petit truc pour que là, la face du monde soit changée. Vous voyez, c'est l'effet papillon. Donc, mes Vikings, c'était mes papillons, en quelque sorte.
Laurent Deutsch est moyen d'accord avec votre version, mais enfin, ça se discute. On peut aussi voir le livre comme une forme d'hommage à la littérature épique que vous adorez, vous nous l'avez dit. Dans votre bibliothèque, il serait rangé où ? Quels auteurs est-ce qu'il irait côtoyer ?
Mon livre ?
Ouais.
Ah bah alors ouais c'est bon c'est toujours très compliqué de
Carlos
classer les livres ouais alors ça pourrait être soit bah je me bon tant qu'à faire hein, je me refuserais rien donc ça pourrait être à côté de Salambo mais j'aimerais bien le mettre peut-être à côté d'Eduardo Galeano qui est un écrivain uruguayen que j'adore et qui raconte de façon très poétique et à la fois très politique l'histoire de l'Amérique latine. Ça pourrait être à côté du récit de la conquête du Mexique de Bernal Diaz del Castillo, parce que je suis absolument fasciné par l'épopée de Cortés. Voilà, bon, c'est-à-dire, tant qu'à se faire plaisir, hein, ça pourrait être à côté de la légende des siècles, de Victor Hugo.
Bah, allez-y, c'est votre bibliothèque, bah, voilà. Hein, vous la rangez comme vous voulez.
Hein. Justement, puisqu'on parle du chronique, puisqu'on parle de si, si vous étiez un écrivain mort, vous seriez qui?
Ah, c'est une question impossible parce que de toute façon quoi que je réponde, on va me tomber dessus. Si j'étais un écrivain mort, qu'est-ce que je pourrais être
Bon, allez, je vous propose un écrivain vivant si vous voulez.
Mon écrivain vivant, c'est Bret Easton Ellis, mais je crains de pas être quand même tout à fait. Au niveau, à tout un tas de niveaux, je crains de pas être au niveau de Bret Easton Ellis.
On le reçoit dans deux jours.
Ah, bah, exactement. Vous le saluerez de ma part. Je le saluerai de votre part.
Ah, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je lui pose comme question à Bret Easton Ellis?
Alors, évidemment, la question qu'on attend, c'est quand est-ce qu'il fera son prochain roman. Je ne veux pas lui poser cette question. Je veux lui dire que moi, roman par roman, j'ai adoré son dernier White et qu'il peut recopier le bottin. De toute façon, je l'adorerai jusqu'à la mort.
Recopier le bottin. D'accord.
Comment vous allez le traduire?
Je sais pas.
De phone book.
Ouais, the phone book. Ah ouais. Copie the phone book. Hein. Juste une dernière question. Si vous aviez le pouvoir d'inverser les choses dans le monde qui est le nôtre, par quoi commenceriez-vous?
Je pense que je nationaliserais toutes les banques, je pense peut-être. Mm-hmm.
Pour commencer.
Ouais. En préalable.
C'est une bonne mesure. Ouais. Merci Laurent.
Merci à vous.
Ne bougez pas, on n'en a pas fini avec vous. Civilisation, c'est votre nouveau roman. Je crois que vous l'aurez compris, ça nous a beaucoup plu ici. C'est édité chez Grasset. Puisque vous savez faire plein de choses, est-ce que vous savez faire ça?
J'essaye.
Vas-y. Pas mal. On valide?
Oui.
Oui, on valide. C'est pour lancer les Pop News.
Paris est têtu, c'est le nom du festival qui se déroulera ce week-end à Jockey Disc, l'hippodrome d'Auteuil, à l'initiative du magazine. Deux jours de festivités avec rencontres et échanges véhiculant les valeurs de tolérance et de diversité du média LGBTQ+, et de la musique évidemment à l'affiche iPhone, Kiddy Smile, Arnaud Robotini, The Pirouette ou encore lui. Jake Shields, The Scissor Sisters, qui se produira sur scène pour la première édition du Paris et Têtu ce week-end, Hippodrome d'Auteuil.
Vous avez probablement deviné, voire tenté un two-step cet été sur Lil Nas X et Billy Ray Cyrus et leur Old Town Road.
Yeah, I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back,
un artiste qu'on aime beaucoup ici, et on a proposé une version très différente, et cet artiste, c'est Anderson .Paak. Une version jazzy proposée à la BBC et qu'on vous met sur la page de Pop 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 sur franceinter.fr.
Et dans la catégorie excellent pitch, je vous propose le suivant, une BD post-apocalyptique française, soit moins d'action, moins de zombies, moins de décors, mais plus de dialogue entre deux inconnus que tout oppose et qui sont obligés de survivre ensemble. C'est ce que racontent Les Sous-Vivants, une BD signée Édouard Cour et David Mourier qui donne de sa personne dans une bande-annonce.
Cher journal, nous sommes mercredi et aujourd'hui je n'ai rien fait. Faut dire que depuis que les zombies ont envahi le monde lundi dernier, je peux plus sortir de chez moi. De plus, je suis obligé de partager ma maison avec un inconnu imbécile du nom de Michel qui vient trouver refuge dans mon chalet par hasard. Alors, j'ai pas le cœur de lui demander de sortir et de l'envoyer vers une mort certaine. Quoi qu'il en soit, les chances de tomber sur un survivant qui soit autant le contraire de moi étaient très maigres. J'y ai eu droit.
Les Sous-Vivants, c'est le titre. C'est pour vous, Laurent Binet. C'est édité chez Delcourt.
France Inter. Bon papa. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Anderson .Paak.
Exactement, bravo.
Ça, j'aurais pu dire n'importe quoi
jour
sur ce coup-là.
Merci Charline. Laurent Binet, vous restez avec nous avant de parler de Zola, encore avec un Z comme dans Civilisation. Rendons hommage à Rico Kazek, le leader du groupe Cars, qui vient de nous quitter. Le morceau, c'est Shake It Up. Check it up, exactement. C'est extrait de l'album éponyme des Cars, dont Rico Kazek, le leader, vient de partir. Il vient de nous quitter. Il a quitté cette vallée de larmes. Voilà. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Binet et viennent de nous rejoindre Alice Chemama et Méliane Marcadji. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour. Vous signez toutes les deux Les Zola. C'est un album qui raconte l'écrivain de sa naissance à son entrée au Panthéon face à la foule antisémite qui lui reproche son soutien à Dreyfus 10 ans plus tôt. Alors une question simple, pourquoi avoir choisi Zola comme sujet d'étude? Qui s'y colle?
Méliane, qui est scénariste.
D'accord. Moi, j'ai surtout choisi de raconter la vie de ces femmes. En fait, je suis surtout dingue de bio et de biographies de femmes, beaucoup, un peu inconnues, si possible. Et j'ai découvert la vie d'Alexandrine Zola. Et je ne mesurais pas l'importance qu'elle avait eue dans sa vie, dans son œuvre, dans son soutien politique. Et j'ai trouvé la vie, après je me suis plus penchée sur la vie de Zola, de sa maîtresse, et j'ai trouvé que c'était un sujet romanesque.
Voilà, parce qu'on dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme, là il y en a deux.
Là il y en a deux, oui. Qui n'ont pas la même fonction.
Pourquoi vous me regardez comme ça, Charlie?
Comme ça, ben, je vous regarde.
Je dirais même qu'il y en a trois.
Je suis pas derrière vous, je suis devant moi, donc je me sens pas du tout concernée par cette histoire.
Je dirais même qu'il y en a trois, parce que sa mère avait vachement compté aussi, donc en fait, il a toujours été porté par les femmes.
Voilà. D'accord.
Est-ce que vous aviez un attrait particulier pour cette période précise, c'est-à-dire la naissance de Zola comme écrivain, ou est-ce que c'était les perspectives esthétiques de l'époque qui vous ont aussi séduite?
Alice.
Eh bien, moi j'aime bien l'histoire, hein, de manière générale, puis les vieux tableaux, tout ça, ça j'aime bien. Et du coup, quand on m'a proposé le scénario, je connaissais pas grand-chose à cette période, et justement, je me suis dit, c'est l'occasion d'en savoir plus.
Vous avez été impressionnée, si je puis dire, par cette période où les impressionnistes
arrivent
au pouvoir?
Ouais, c'est impressionnant, puis il y a eu beaucoup de changements. C'est aussi une période très importante qu'on étudie à l'école. Voilà.
Pourquoi ne pas avoir choisi comme titre Zola de ZA?
Oh, ça aurait été vachement... On peut changer?
Oui, bien sûr, évidemment.
On va appeler Dargo tout de suite.
Et votre ami.
Bon, Méliane, vous signez le texte et vous, Alice, les dessins. Et pour ces dessins, vous avez choisi une technique qui n'est pas sans rappeler les peintures impressionnistes de l'époque. Est-ce que c'est une manière aussi d'ancrer le lecteur dans cette période?
Ah bah oui, complètement. Et moi aussi d'ailleurs, parce que du coup je suis rentrée dans cet univers, dans cette période que je connaissais pas, donc il a fallu se renseigner, et dans les sources d'inspiration, fatalement il y a tous les impressionnistes, enfin je parle d'inspiration visuelle, et le post-impressionnisme, et je me rappelle plus c'était quoi votre question.
C'était ça ma question, est-ce que c'était justement pour aider le lecteur
Et oui, bah du coup oui, c'était pour m'immerger moi-même, et au final pour faire rentrer le lecteur dans ce monde, dans toute une époque, et je trouve que ça renforce aussi le récit de Méliane.
Et alors Zola fait partie de ces auteurs dont on se dit, sûrement à tort, hein, que peu de choses à son sujet nous échappent aujourd'hui. Comment est-ce que vous l'avez abordé? Est-ce qu'il y avait une angoisse à ce sujet? Alors vous avez trouvé un axe qui pour le coup est très original, mais est-ce qu'il y a aussi une angoisse à s'attaquer à un monument pareil?
J'ai pas trop réfléchi à ça. Ouais. Maintenant que je suis là, je me dis merde, j'ai peut-être dû y penser. Non, en fait, c'est surtout par la petite histoire. J'ai pas l'impression, et surtout, je voulais pas du tout lui enlever de lettres de noblesse, et j'espère que c'est le cas. Et ça reste un immense auteur, et voilà. Mais je voulais raconter cette histoire-là particulièrement, que je trouve romanesque, et j'espère qu'elle donnera envie aux gens éventuellement de se replonger dans Zola ou pas. Et j'ai essayé de retracer comme ça l'inspiration à des moments de sa vie. Voilà.
Nous avons un expert S littérature dans ce studio, Laurent Binet. Zola.
Ah bah Zola, moi je trouve qu'il est un petit peu dans la longue lignée des romanciers réalistes du 19e siècle. Il est un petit peu relégué et très injustement un petit peu méprisé par rapport aux Balzac, Flaubert, Stendhal, etc. Alors que c'est juste sublime, les Rougon-Macquart, c'est exceptionnel, littérairement c'est formidable, c'est d'une intelligence, à la fois d'une puissance romanesque et puis c'est un document sociologique incroyable.
Et puis c'est un écrivain engagé, ce qui ne doit pas être fait pour vous déplaire.
Oui, absolument.
D'accord. Ouais. L'écriture, elle, est très punchy, très actuelle, hein. Il y a des similitudes entre l'époque à laquelle a vécu Zola et la nôtre.
Je trouve que sur la misère qui malheureusement réapparaît violemment sous nos yeux en France, je trouve que oui, ça fait écho. Et la violence qui en émane, voilà. Je trouve que oui, c'était pas le but au départ, mais en écrivant, c'est vrai que ça m'est apparu Et voilà, je trouve que oui, il y a des échos avec aujourd'hui, et malheureusement.
Et puis les excès de la bourgeoisie dans la curée, dans son excellence Eugène Rougon, bon voilà, c'était pas l'évasion fiscale à l'époque, mais il savait en croquer.
Mais alors justement, pour préparer les Zola, est-ce qu'on se replonge uniquement dans la bio ou est-ce qu'on relit toute l'œuvre aussi ? Qui est clair aussi.
J'ai pas relu toute l'œuvre. J'en ai relu certains, ouais. Évidemment. Ouais. Et surtout, après, j'ai essayé de comprendre plus les personnages comme des personnages de fiction et de les faire parler, de les faire vivre en me basant sur des faits historiques, enfin des dates et des faits, mais en essayant de les faire vivre et de les mettre en situation et voilà, et de comme un scénario normal en fait des personnages, de se les approprier comme des personnages de fiction, voilà.
Le titre Les Zola fait référence à toutes les femmes de sa vie, comme dirait les L5.
C'est exactement
pourquoi
ça. C'est génial.
Pourquoi ne pas avoir concentré l'histoire sur elle directement?
Bah, j'y pense. Je pense vraiment faire un tome 2 sur les L5. Voilà. pourquoi l'avoir intitulé Alexandrine et Jeanne, par exemple? Parce que je voulais rendre hommage aussi, enfin, parce que je voulais rendre aussi hommage à l'homme, et que je voulais pas que ce soit juste, ah, d'accord, en fait, c'est pas lui, c'est les femmes qui l'ont fait, tout ça. Non, pour moi, ça n'enlève rien à l'artiste et à son génie. C'est juste qu'il a été accompagné par des femmes aussi incroyables, et j'avais envie de les sortir de l'ombre, mais c'est tout. Et c'est surtout, il y a une biographie qui est très bien faite, que je vous recommande, qui est Madame Zola d'Evelyn Bloch-Dano, qui est la seule, qui est la première à avoir sorti, Alexandrine de l'ombre, c'est pas moi, c'est elle à la base, et je vous la recommande parce que c'est merveilleux.
C'est un prisme intéressant de parler aussi des écrivains à travers les femmes qui les ont soutenues et des noms. Laurent.
Mais d'une manière générale, c'est vrai que, enfin, bon, on découvre, on fait mine de découvrir l'importance des femmes dans l'histoire artistique, mais l'histoire tout court également. Et
dans les émissions.
Moi, j'ai pour mes recherches pour la conquête espagnole, j'ai découvert la figure de la Malinche, qui était une esclave indienne qui a aidé Cortés à conquérir le Mexique, qui est un personnage absolument fabuleux et sans l'aide duquel Cortés aurait échoué. Ça, j'en suis sûr. Ouais.
Alors, prochaine uchronie, si une femme avait écrit les Rougon-Macquart, peut-être.
Ah oui,
c'est pas inintéressant.
Non, pas du tout. Mais Zola était, je pense, un écrivain assez féministe.
Alice Chemama, vous avez signé un court-métrage qui s'appelle Holy Chic.
Oui.
Et vous, Mélanie Marcadji, vous avez co-écrit votre long-métrage Belle Fille. Alors, c'est quoi la suite? C'est Zola sur grand écran, par exemple?
Ah,
j'aimerais
bien.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Avec les L5 dans la BO, bien sûr.
Ah bah oui, ah oui, ça c'est tout, évidemment.
Pour parler peut-être, non? Ça se rediscute, la BO.
La BO?
Ça se rediscute,
pour
le projet en soi.
Ça peut être sympa.
C'est pas obligé, les L5.
Non, mais pourquoi pas, puisque vous avez cet intérêt commun pour l'image qui bouge, non?
Le film à partir de Zola.
Ah oui, complètement.
Après, c'est très cher. À la base, Méliane voulait faire une série avec comme ça plusieurs femmes derrière des grands auteurs ou célébrités. Mais il se trouve que c'est très compliqué à réaliser les trucs en costume parce que y a du décor.
À vrai dire, au départ, c'était un projet télé. Et qui était très cher puisque d'époque, etc. Et c'est resté dans des tiroirs et enfin ça s'est passé par des productions, etc. Mais ça n'a jamais vu le jour. J'ai eu l'opportunité de rencontrer une éditrice Hidalgo qui y a cru et on s'est lancé là-dedans. Mais moi à la base c'était pas forcément un projet de bande dessinée. Maintenant j'en suis très heureuse parce que au contraire ça permet de passer 40 ans de la vie en revue, mettre des reconstitutions incroyables.
C'est moins cher. Et c'est de mettre 1000 personnes devant le
C'est ça.
C'est plus facile en
Exactement.
Dessin.
Et puis en plus, les dessins d'Alice sont superbes. Donc,
et ça donne une très belle bande dessinée où l'on apprend plein de choses. Voyez-vous sur Émile Zola. Oui, regardez pas comme ça, Laurent. Les Zola, c'est édité chez Dargo. Laurent Binet, Mélanie Marcadji, Alice Chemama, on approche de la fin de l'émission. C'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Alors, j'ai toujours pas trouvé la trappe pour descendre, mais j'ai un ascenseur cette année. Allez, je l'appelle. Alors, je vais aller... Tiens, là. Ah, waouh ! La discothèque de Radio France. Ah ! Mais il y a tous les disques ici. Ah, tiens, le rayon playlist. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alex Baupin, Vendredi sur Merde, Dominique A, Benabar... ça manque un peu de Johnny, quand même.
Ah bah oui, Johnny Montreuil, évidemment. Allez. Ah bah heureusement que j'ai ma clé USB. Hein.
Du genre à aimer les filles, elles me manquent toutes, j'y pense comme un débile. J'ai dit à ma mère que je ne l'oublierai pas, mais je pense encore à Nedia, 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 Tremime, Nedia, 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 Nikit Keme, Nedia. Croise là-haut Miss Mary Jane, dis-lui que je suis toujours son homme qu'il aime. Embrasse toutes celles qui sont restées là-bas, et surtout n'oublie pas Nedia, 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 Beleket Zato, Nedia, 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 Neket Kemer, Nedia. J'ai usé la mer, traîné la campagne, aucune n'a pu apaiser ma âne. Mon cœur balance pour une fidèle Ila, mon cœur balance encore pour Nedia, 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 Neket Kemer, Nedia, 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 Beleket Zato, Nedia, oh. Foutu de moi, au Cupidon, j'ai chanté l'amour sur tous les balcons. Mais si je garde un pot de fleurs ici-bas, dans mon cœur, ce sera le tien. Nedia, 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 Neket Kemer, Nedia, 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 Tremime, Nedia, 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 Beleket Zato, Nedia, 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 Neket Kemer, Nedia. Des bagnoles, d'aller me marier. Sauf qu'avant de me mettre la bague au doigt, moi j'irai faire un tour avec Nedia. Nedia, Nedia, belle tête, c'est tout. Nedia, 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 Tremime, Nedia, 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 Nekit Keme, Nedia, 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 belle tête, c'est tout. Nedia.
Johnny Montreuil, un artiste qui ne figure pas dans la playlist d'Inter, mais dans celle de Pop Pop Pop, et c'était le morceau Nedia. Et je rappelle que tant que Johnny Montreuil ne sera pas dans la playlist de France Inter, nous le jouerons chaque semaine, ici. Voilà, merci Alice Chemama et Méliane Marcadji. Je rappelle que Les Zola, c'est édité chez Darko, et merci Laurent Binet. Civilisation avec un Z, c'est chez Grasset. Merci. Demain, dans Pop Pop Pop, Rojdi Zem. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Didier à la fin de ses tutos, on veut du Johnny Montreuil sur Inter. Hey, abonnez-vous à notre podcast, quoi, les tapettes là. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials. 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.